franceinter.fr.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'Islande face à la crise entre mythe et réalité. Au mois d'octobre 2008, une crise financière sans précédent bouleverse le monde. La vague est si forte qu'elle chahute toutes les places boursières de la planète. Banques, multinationales, fonds d'investissement, compagnies d'assurance, grands groupes industriels. Personne n'échappe à ce raz-de-marée venu tout droit des États-Unis. Personne, et encore moins l'Islande. Du jour au lendemain, le pays des Vikings se retrouve sur le devant de la scène. Car les Islandais font face à une situation inédite. Leur pays est au bord de la faillite et ils sont incapables de payer leurs dettes. Miroir de la crise et laboratoire d'expérimentation inédit, le cas islandais interpelle et il suscite partout à travers le monde un intérêt considérable. D'autant qu'aujourd'hui, 9 ans après les faits, ce pays semble être le seul à avoir vraiment vaincu la crise. Alors, quels sont les ingrédients du miracle islandais, si tant est qu'il existe? On dit souvent que le pays a mis en prison ses banquiers, puni ses responsables politiques. On affirme que l'Islande a réécrit sa constitution via une assemblée constituante, donc, composée de simples citoyens, que ses habitants ont refusé de payer pour les folies de leurs banques. Entre mythe et réalité, qu'en est-il réellement? Après le récit, nous recevrons le journaliste Pascal Richet, spécialiste des questions économiques à l'Obs. Il est le cofondateur du site d'information en ligne Rue 89 en 2013. Il est parti enquêter en Islande pendant plusieurs semaines. Il en a tiré un ouvrage d'analyse intitulé « Comment l'Islande a vaincu la crise » disponible en ligne aux éditions Versilio. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attaché de production, Laure Grand-Besançon, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jakubowicz, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Ludovic Asselot.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Voða falleg krokkið hár, hettan rauð og kjóllinn blár. Svo er hún með silki skó, sokka hvíta eins og snjó. Heldur ekki að hún sé þín, dansi, dansi, dukkan mín.
C'est une chanson islandaise? Vous êtes tous les deux islandais. Comment t'appelles-tu?
Elvi.
Et toi?
Sora.
Ces enfants sont venus nous rendre visite et ils m'ont parlé de leur pays. Avant de les entendre, je savais simplement que l'Islande était une grande île au nord. Mais maintenant, grâce à tout ce qu'ils m'ont appris, j'ai bien envie de partir en Islande. Aussi, je vous propose d'y aller avec moi.
Au milieu des années 50, les Français découvrent à la télé les images d'un territoire mystérieux. En plein cœur de l'Atlantique Nord, à la limite du cercle polaire arctique, à plus de 3000 km de Paris, il existe un endroit où les paysages crachent l'eau et le feu. Cette île, grande comme le Portugal et sur laquelle les gens vivent dans des conditions extrêmes, c'est l'Islande. Longtemps rattachée à la Norvège, puis au royaume du Danemark, l'Islande est depuis 1944 une république indépendante. Elle dispose d'un président, d'un premier ministre et d'un parlement. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Par leur langue, leur histoire et leur culture, les Islandais constituent un peuple profondément ancré dans le monde scandinave. Il suffit d'ailleurs de marcher quelques minutes dans les rues de la capitale, Reykjavik, pour s'en rendre compte. Ici, les maisons aux façades colorées et aux toits de bois renvoient à s'y méprendre aux riches villes d'Europe du Nord. Pourtant, loin de l'image de carte postale qu'elle renvoie, l'Islande reste un pays pauvre. Sur place, on vit de la pêche et de l'agriculture d'élevage. Il y a très peu d'industrie. Il faut attendre le début des années 70 pour que le pays découvre, enfoui dans son sous-sol, une énergie riche et abondante, la géothermie. Grâce à elle, l'Islande se métamorphose. Les usines d'aluminium, de ferraillage et d'engrais fleurissent. Donc, les Islandais se modernisent. Sur le plan politique, les années passent et les gouvernements de coalition se succèdent à Reykjavik. En ces temps de guerre impossible et de paix improbable entre l'Est et l'Ouest, l'île se retrouve au cœur de l'intense bataille géostratégique entre les deux grands. Les Islandais abandonnent leur neutralité et rejoignent l'OTAN. En échange d'une importante aide financière, ils autorisent même les États-Unis à venir construire chez eux une base militaire. Mais le véritable tournant intervient au milieu des années 90. Sous l'impulsion du Parti de l'Indépendance, le pays effectue un changement de cap radical dans sa politique économique. En l'espace de quelques mois, les Islandais tournent le dos à plusieurs siècles d'histoire. exit la prégnance de la pêche. Désormais, ils vont concentrer leurs efforts sur un domaine d'activité qui, à l'époque, fascine autant qui, dit-on, façonne l'avenir, celui de la finance. À l'origine de ce projet un peu fou pour un si petit pays, il y a un homme, David Hodgson. Élu Premier ministre en 1991, il est fasciné par la théorie néolibérale et par le modèle thatchérien au Royaume-Uni. Le Premier ministre islandais est ambitieux, il veut faire de son pays un modèle, celui du libéralisme triomphant. Pour y parvenir, l'État islandais crée dans la foulée trois banques d'investissement, la Gildnir, la Kaupthing et la Landsbanki. En 2001, toujours sous l'impulsion du Premier ministre Hodgson, l'Islande supprime toute régulation de son système financier. Les trois établissements bancaires sont privatisés. Désormais, libres et hors de tout contrôle, les banques islandaises se livrent à toutes les opérations possibles et imaginables sur les marchés financiers. Et très vite, cette petite révolution bouleverse le mode de vie des Islandais. Au printemps 2004, la fête bat son plein dans les bars et les boîtes de nuit à Reykjavik. Tous les soirs, au son des plus grands DJ de la planète, des centaines de personnes se réunissent sur le dance floor. Bien loin de son image de ville de pêcheurs, Reykjavik est désormais une capitale en vue pour la jeunesse. On y vient en touriste, on y passe le temps d'un week-end. Mais cette activité nocturne témoigne aussi de l'existence sur place d'une toute nouvelle génération d'Islandais. On les appelle les néo-vikings. Ils ont pour la plupart entre 30 et 40 ans et ce sont des aventuriers de la finance. Leur leitmotiv, s'amuser et dépenser. Preuve que l'argent ne semble pas ici être un problème, à proximité des établissements de nuit et un peu partout dans la capitale, les 4x4 de luxe et les berlines de grosses cylindrées sont nombreuses. Dans le port de Plaisance, des dizaines de yachts flambant neufs sont amarrés. Enfin, sur le tarmac de l'aéroport de Keflavik, une flotte de jets privés, tous plus grands les uns que les autres, stationne. Autre témoignage de ce changement dans le niveau de vie des Islandais, en l'espace de quelques années, Reykjavik est devenu un chantier à ciel ouvert. Ici, on prévoit les tours d'un futur World Trade Center, là on lance la construction d'un opéra, dont on dit qu'il rivalisera bientôt avec celui de Sydney. En périphérie de la ville, des résidences pavillonnaires sortent de terre. Quant aux banques islandaises, elles aussi grossissent à vue d'œil. Et elles font d'ailleurs rêver les financiers du monde entier. Au point que la banque suisse UBS ira même jusqu'à les féliciter pour l'intelligence de leurs investissements. Ailleurs en Europe, le son cloche est plus critique. Dans leur rédaction, les journalistes sont sceptiques. D'autres s'interrogent. Comment les Islandais peuvent-ils disposer d'autant d'argent? Et d'où sortent-ils cet incroyable magot? En réalité, derrière l'Eldorado symbolisé par ces immeubles de verre qui poussent comme des champignons sur l'île, les Islandais n'ont rien inventé. Et comme l'explique justement Benjamin Bonne, un Français installé à Reykjavik depuis une dizaine d'années, leur méthode tient en un mot, vivre à crédit.
Tout le monde utilise des crédits, tout le monde utilise des emprunts pour de l'immobilier, pour s'acheter des 4x4 gigantesques qui ont toujours coûté très cher ici, bah parce qu'importés en petite quantité. L'Islande est chère de toute façon, c'est fortement taxé, etc. Mais bon, à crédit, c'était très facile toujours d'aller à la banque et puis d'obtenir de l'argent sans vraiment avoir à justifier grand-chose. D'avoir des emprunts à 100% pour de l'immobilier, par exemple. Les gens ont toujours une tendance à empiler un petit peu les crédits et les dettes, creuser un petit peu le trou à la banque pour aller dans le rouge juste parce qu'ils veulent aller en vacances pendant 2 semaines en Espagne au milieu de l'hiver. C'est quelque chose qui dérangeait pas les Islandais jusqu'à maintenant.
Le crédit, voilà donc l'envers du décor de ce miracle islandais. Dans un système où il n'y a plus aucune barrière, les banques appellent directement chez les gens pour leur proposer d'emprunter de l'argent. Ainsi, 30 000 familles islandaises se laissent séduire et multiplient les emprunts. On parle ici de sommes qui dépassent souvent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Très vite, la culture de l'argent facile se répand sur toute l'île. Nouvelles voitures, nouvelles maisons, nouveaux investissements. Le pays est pris d'une véritable fièvre acheteuse. Les Islandais vivent dans la frénésie. De l'autre côté, pour financer tout leur système de prêts à la consommation, les banques islandaises n'ont là non plus rien inventé. Libres de tous leurs mouvements et sans compte à rendre à qui que ce soit, chacune d'entre elles se gorge d'emprunts en devises étrangères à taux bas. Cet argent, elles le réinvestissent ensuite dans des actifs censés rapporter plus. Ainsi, de Londres à New York, de Tokyo à Sao Paulo, les trois grandes banques du pays, la Giltner, la Kopting et la Landsbanki, font leur marché. Ici, elles achètent des immeubles de haut standing. Là, elles mettent la main sur des entreprises de nanotechnologie. Parfois, elles vont même jusqu'à prendre sous leur coupe un club de foot anglais ou une grande chaîne de magasins de jouets. Et à ce petit jeu, c'est la banque Giltner qui réalise la plus grande opération. En 2006, elle provoque une onde de choc sur les marchés en achetant un peu plus de 8% des titres de la première compagnie aérienne mondiale, American Airlines. Assis sur un rêve en forme de lingot, les Islandais croient en leur chance. Et ça marche. Partout, on vante les chiffres et les résultats, comme ici sur France Inter, dans la revue de presse internationale de Gianpaolo Attard.
Le Wall Street Journal nous rappelle que l'Islande compte moins de 300 000 habitants et que la pêche y est la principale activité économique. Mais une autre source de revenus, continue le quotidien économique new-yorkais, c'est la spéculation financière, alimentée par des taux d'intérêt qui frôlent les 0% et qui attirent les investisseurs étrangers. En 2004, la croissance économique atteignait 8,2%, un taux digne de pays en développement, tel l'Inde ou la Chine, continue le Wall Street Journal. Et le pays regorgeait de liquidités, si bien que les entreprises islandaises s'en sont données à cœur joie, prenant d'importantes participations dans des sociétés étrangères.
Au début de l'année 2007, les indicateurs internationaux ne s'y trompent pas. L'Islande, confetti de terre volcanique perdue au milieu de l'océan Atlantique Nord, est désormais le cinquième pays le plus riche du monde. Et le miracle islandais va même plus loin dans son rapport annuel. Le programme des Nations Unies pour le développement classe ce petit pays en tête du prestigieux indice de développement humain, l'IDH, quand la France, elle, ne pointe qu'à la 10e position. Autrement dit, cette année-là, les Islandais sont, selon l'ONU, le peuple le plus riche et le plus heureux de la planète. Voilà, l'histoire est belle. L'Islande vit un rêve éveillé. Mais au même moment, à plusieurs milliers de kilomètres de là, dans une grande tour de verre de Manhattan, à New York, des experts de la finance tirent pour la première fois la sonnette d'alarme. Ces hommes et ces femmes, ce sont des agents du FMI, le Fonds monétaire international, une institution chargée de garantir la stabilité monétaire dans le monde. En effet, le FMI a mis la main sur plusieurs rapports inquiétants. Et pour ces agents, l'Islande est devenue un immense hedge fund, comprenez, un fonds spéculatif. Car désormais, les trois banques islandaises, la Glitnir, la Kopting et la Lombanski, pèsent plus de 10 fois le PIB du pays. Et bien sûr, au moindre ralentissement sur les marchés, la situation pourrait vite tourner à la catastrophe. Malgré l'avertissement à Reykjavik, les Vikings de la techno-finance, cette science économique abstraite et obscure, font la sourde oreille. Eux en sont persuadés, ils ne courent aucun risque. Les dieux les protègent, affirme-t-il dans la presse locale. Et ainsi, au cours de l'année 2007, les mois passent, et tels des apprentis sorciers, les banquiers islandais continuent tranquillement leur alchimie sur les marchés, c'est le cas de le dire, car ils transforment le plomb en or, en quelque sorte. Alors, qui, parmi eux, pourrait imaginer un seul instant qu'un événement imprévu va venir briser leur modèle et qu'avec lui, c'est un pays de 320 000 habitants qui était au bord du gouffre et pour tout dire, de la ruine.
France Inter. L'économie à présent, avec donc les suites de ce lundi noir sur les places financières. Cette nuit, la Banque du Japon a annoncé l'injection de quelque 10 milliards d'euros dans le marché monétaire japonais. Il s'agit bien évidemment de faire face aux conséquences de la faillite hier de la banque d'affaires américaine Lehman Brothers. Une faillite qui a entraîné toutes les bourses de la planète dans la chute. Moins 5% ce matin en ouverture à Tokyo, idem à Shanghai. À Paris hier soir, le CAC 40 a plongé de 3,7%, moins 3,9% à Londres et moins 4,4% hier soir en clôture à Wall Street. Du jamais vu depuis le 11 septembre 2001.
The steepest drop yet in the stock market roller coaster ride, which is proving to be the stock market started stressing over the next worry, the credit markets.
Lundi 15 septembre 2008, en l'espace de quelques heures, partout à travers le monde, la panique s'empare des salles de marché. À Wall Street, le New York Stock Exchange, plus grande plateforme d'échange des valeurs financières de la planète, plonge. Les yeux rivés sur leurs écrans, les oreilles scotchées à leur smartphone, les traders deviennent les témoins impuissants d'un phénomène qui les dépasse. Voilà un an que le système bancaire mondial vivait déjà au ralenti depuis l'effondrement du marché des subprimes, le secteur des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis. Désormais, avec la faillite de la banque Lehman Brothers et la mise sous tutelle du plus grand assureur mondial, le groupe américain AIG, le système économique de la planète est à genoux. Et très vite, la contagion se propage au continent européen. Des banques britanniques se retrouvent en cessation de paiement. Des fonds d'investissement espagnols sont tout bonnement ruinés. En France, les victimes aussi sont nombreuses. Parmi elles, le groupe BNP Paribas, la banque d'affaires Natixis ou encore la Société Générale. Sur France Inter, le député Michel Sapin fait part de son inquiétude pour la suite.
Il y a une forme de purge très brutale qui va laisser des traces considérables dans le domaine financier. Il y a des gens qui vont y perdre beaucoup d'argent, pas forcément ceux qui avaient gagné beaucoup d'argent avant. Mais le plus grave est encore devant nous, c'est-à-dire les conséquences de tout cela pour monsieur et madame tout le monde, pour celui qui travaille et qui risque d'être au chômage, pour tous les acteurs économiques, les entrepreneurs de toute nature qui voient se tarir le crédit, donc qui voient se tarir la capacité à investir, à prendre des décisions. Donc c'est le ralentissement économique considérable devant nous qui est certainement la conséquence la plus grave de la situation d'aujourd'hui.
Dans les jours qui suivent, les mauvaises nouvelles en provenance des États-Unis se succèdent et aggravent le climat de morosité ambiant. En Europe, la Banque centrale met en place plusieurs mécanismes de sauvegarde. Les États membres de l'Union européenne, eux, font les comptes. Les pertes sont astronomiques et dépassent de loin ce qu'on pouvait imaginer. En réaction, et pour éviter, disent-ils, l'effondrement des marchés, Paris, Berlin et Londres recapitalisent leurs banques. À eux trois, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni mettent plus de 184 milliards d'euros sur la table. Pour vous donner une idée, cette somme représente 6 fois le chiffre d'affaires annuel du géant de l'informatique, Microsoft. Ensuite, eh bien les semaines passent, en cet automne 2008. Avec elles, les marchés restent à leur plus bas niveau. Les circuits financiers mondiaux, eux, sont à sec. Et bientôt, on apprend qu'un autre désastre se profile à l'horizon, toujours à cause de la crise. C'est un pays tout entier qui serait cette fois au bord de la faillite. En effet, dans la nuit du 6 au 7 octobre, la situation bascule brutalement en Islande. Sans en avertir ses partenaires, le gouvernement de Reykjavik interdit tout mouvement de capitaux entre l'île et l'extérieur. Le pays se retrouve ainsi coupé du monde. Dans la foulée, les parlementaires islandais adoptent un plan d'urgence. Dans les grandes lignes, il s'agit de contrôler, filtrer tous les flux de capitaux, mais aussi de garantir les dépôts des Islandais et enfin de transférer le système de paiement à la Banque centrale d'Islande. Pour les responsables politiques, l'objectif est simple, sauver ce qui peut encore l'être et éviter que l'État ne fasse banqueroute. Dans le même temps, en direct à la télé, le Premier ministre conservateur Geert Haarde prend la parole pour annoncer aux Islandais que leur rêve, est terminé.
Ces dernières années, la croissance et la profitabilité des banques islandaises a été proche d'un conte de fées. Mais la taille des banques, en comparaison de l'économie islandaise, est désormais leur principale faiblesse. Le danger est grand, chers concitoyens, de voir l'économie islandaise dans le pire scénario, être aspiré avec les banques dans le maelstrom avec pour résultat la faillite du pays. Avec l'optimisme islandais, avec comme arme notre force de caractère et notre solidarité, nous traverserons la tempête. Que Dieu sauve l'Islande.
Deux jours plus tard, alors que les informations inquiétantes se succèdent, le gouvernement islandais prend le contrôle des trois plus grandes banques du pays, la Glitnir, la Kaupthing et la Landsbanki. Et là, stupeur, on découvre que leur endettement n'est pas lié au marché domestique. Non, il est sur les marchés étrangers à plus de 75% pour une ardoise qui s'élève à 6 milliards d'euros, autrement dit, la moitié du PIB de l'Islande. Situation dramatique, le pays n'a pas les moyens de rembourser les créanciers étrangers. Alors, que faire? Eh bien, le Premier ministre islandais annonce par communiqué de presse que son pays refuse de sauver les banques et de socialiser les pertes. Gerhard ajoute que l'Islande n'endossera pas la responsabilité pour les pertes extérieures, c'est-à-dire pour l'argent perdu par les banques islandaises sur les marchés étrangers. Dans le même temps, le gouvernement de Reykjavik annonce le sauvetage du marché national et explique avoir demandé de l'aide aux États amis. Les Islandais peuvent respirer, leurs dépôts sont préservés. Le système interne de paiement, lui, n'est pas affecté. Ils peuvent continuer donc, les Islandais, à utiliser leur carte de paiement ainsi que retirer aux distributeurs automatiques de l'argent. En l'espace de quelques jours, de nouvelles banques sont créées sur l'île pour reprendre les opérations. Le système a survécu. Du côté de Reykjavik, on entrevoit l'espoir de jours meilleurs. Mais certains à Londres ne l'entendent pas de cette oreille. Et pour les Islandais, la crise économique va vite se transformer en crise diplomatique.
C'est un comportement totalement inacceptable. Nous prenons des mesures légales pour empêcher tout mouvement d'argent vers l'Islande. Nous sommes en train de geler les actifs des sociétés islandaises. Le gouvernement islandais est responsable de ce qui se passe.
À la fin du mois d'octobre 2008, le Premier ministre du Royaume-Uni, Gordon Brown, menace l'Islande et son gouvernement. Dans la foulée, les autorités britanniques placent ce pays sur la liste des États terroristes, oui, au même titre que la Corée du Nord ou le Soudan. Réponse sèche et âpre au refus de Reykjavik de garantir les pertes des créances des étrangers dans leurs banques. Une décision qui a un fort impact chez les Anglais et les Néerlandais. Car dans ces pays, des centaines de milliers d'épargnants avaient confié toutes leurs économies à Icesave, une filiale de la banque islandaise Landsbanki. Des économies qui ont fondu comme les glaciers de l'Arctique et dont on évalue le montant total à plus de 5 milliards d'euros. Dès lors, la crise économique prend des allures d'un bras de fer politique entre Reykjavik et Londres. Chacun campe sur ses positions. Les Islandais affirment qu'ils ne peuvent pas payer. La Grande-Bretagne répond qu'elle fera tout pour être remboursée. Les négociations piétinent et l'Union européenne ainsi que le FMI s'en mêlent. C'est leur rôle. En attendant, la population islandaise se retrouve seule face à une situation inédite. Qui peut alors imaginer les choix que s'apprêtent à faire les habitants de l'île ? Janvier 2009, en Islande, la colère gronde. À Reykjavik, plusieurs milliers de personnes manifestent autour du Parlement. Voilà plus de 3 mois que la crise économique frappe violemment leur pays. 3 mois que les Islandais vivent dans des conditions difficiles. Un quart d'entre eux ont perdu toutes leurs économies après la chute des 3 grandes banques du pays en octobre dernier. À cela, il faut ajouter les crédits de plusieurs dizaines de milliers d'euros que certains doivent encore rembourser. Parmi tous ces gens touchés, il y a Thorstein Tobergsson. Lui travaillait chez Landsbanki. Marié, père de 3 enfants, il gagnait avant la crise un peu plus de 10 000 euros par mois. Mais du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Désormais, les factures s'accumulent et avec elles, l'angoisse monte. Licencié comme 300 de ses collègues, Thorstein Tobergsson passe désormais ses journées chez lui à chercher du travail. Mais les offres d'emploi pour être banquier en Islande en ce moment, ça ne court pas les rues. Et pour cause. Interrogé par les journalistes Yvan Martinet et Mickaël Cario pour le magazine Complément d'enquête, l'ex-banquier reconnaît sa part de responsabilité dans la crise.
Nous avons eu les yeux plus gros que le ventre, comme si nous étions de grandes banques. On a cru qu'on pourrait y arriver parce que c'est nous, les Vikings.
Et les Vikings ont perdu la partie ?
Sans doute, oui. Il va maintenant falloir qu'on se remette en question avant de recommencer.
Vous vous sentez responsable de cette crise ?
Moi, personnellement ? Oui, oui.
Les Islandais en veulent-ils à Thorstein Bergson d'avoir joué avec la finance et d'être l'un des artisans de la banqueroute de leur pays ? Non. En Islande, la population reste pragmatique et magnanime. On ne cherche pas à punir un seul homme pour ce qui s'est passé. Ce que les gens souhaitent ici, c'est identifier et sanctionner tout le système. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils descendent manifester dans la rue. Pour organiser leur mouvement, les Islandais utilisent Facebook. Les pages du réseau social se transforment vite en un lieu d'échange. Bien avant l'épisode des printemps arabes, la toute première révolution politique 2.0 a donc lieu en Islande. Ensuite, les Islandais marchent autour du Parlement, comme en cette journée du 20 janvier 2009. Lorsque l'un d'entre eux prend la parole au mégaphone, c'est pour réclamer des comptes à ses anciens banquiers.
Quelques individus à la tête des banques ont pu hypothéquer l'Islande sans notre permission. C'est la plus sévère attaque qu'ait jamais subie notre nation.
Les responsables politiques islandais sont également visés par les critiques. Les manifestants les accusent, entre autres, d'avoir eu connaissance de ce qui allait se passer, mais d'avoir sciemment laissé la situation se dégrader. Des signes qu'il existe une certaine tension au sein de la population, il se produit ce 20 janvier un événement extrêmement rare en Islande. En fin d'après-midi, alors que le cortège se disperse, des heurts éclatent entre plusieurs manifestants et la police. De telles scènes ne s'étaient pas produites sur l'île depuis 60 ans, date à laquelle les habitants de l'île manifestaient contre l'adhésion de leur pays à l'OTAN. Acculé, déstabilisé, le pouvoir politique vacille. Dans son bureau, le premier ministre islandais le sait, ses jours à la tête du pays sont comptés. Pour tenter de calmer la rue, il annonce des élections anticipées, mais rien n'y fait. Jour après jour, les Islandais sont de plus en plus nombreux à manifester à Reykjavik. En l'absence de solution, le Premier ministre démissionne avec tout son gouvernement ainsi que les responsables de l'autorité bancaire du pays. Ici s'écrivent les lignes de la première victoire du peuple islandais dans son combat pour changer la société. Quelques semaines plus tard, c'est une femme, Johanna Sigurðardóttir, qui est élue Premier ministre du pays. Face à elle, la tâche s'annonce immense. Mais on va le voir, les Islandais et les Islandaises ne manquent pas d'idées pour relancer leur pays sur le bon rail. Parmi elles, il y a la traque des responsables de la crise. Dans les semaines qui suivent les grandes manifestations de l'hiver 2009 et la chute du gouvernement Harde, face à la pression populaire, le Parlement islandais nomme un procureur spécial pour déterminer les responsables du désastre. Cet homme, c'est Olafur Thor Hauksson. Il est commissaire de police d'une petite ville éloignée de Reykjavik. Il est assez inexpérimenté en matière de délits financiers. Aussi, lui adjoint-on l'aide d'une juge de renommée internationale pour l'épauler et le guider dans ses démarches. Cette personne, c'est une ancienne magistrate du pôle financier du parquet de Paris. Elle a une solide réputation après avoir instruit l'affaire Tapie contre le Crédit Lyonnais, puis la ténébreuse affaire Elf, j'ai nommé Eva Joly.
J'ai accepté cette enquête, ou d'assister à cette enquête, parce que il me semblait que l'Islande, qui souhaitait voir clair et comprendre ce qui s'était passé, que c'était exemplaire. Et pour moi, c'est un laboratoire, c'est une miniature où mettre à nu le dysfonctionnement du système financier. L'avantage de la délinquance financière, c'est qu'elle laisse des traces que vous ne pouvez pas effacer. Le problème islandais, c'est que tout le monde est le cousin de quelqu'un. Les liens sont très étroits. Vous le savez peut-être, mais moi je suis à l'origine du départ du procureur général d'Islande. J'ai mis comme condition son départ pour continuer mon travail. parce que j'ai découvert qu'il était le père d'une des personnes impliquées.
Grâce à son réseau d'enquêteurs et de spécialistes, Eva Joly permet à l'enquête d'avancer de manière significative. Les Islandais remontent ainsi la piste de plusieurs comptes suspects, au Luxembourg notamment. On découvre aussi qu'une vingtaine d'anciens banquiers islandais se sont réfugiés aux États-Unis, en Suisse et en Russie, où ils vivent dans le plus grand confort, voire le plus grand faste. Au total, la justice islandaise ouvre 90 procédures contre des personnes qu'elle soupçonne d'avoir participé à l'élaboration du système spéculatif sur l'île. Et moins d'un an plus tard, d'anciens responsables des banques islandaises sont arrêtés. Certains sont accusés de fraude, d'autres de détournement de fonds. Par la suite, plusieurs d'entre eux seront condamnés à de la prison ferme. Mais dans leur grande majorité, ceux qui ont conduit l'Islande dans le gouffre, ces banquiers, traders et gérants de fonds spéculatifs, tous ces gens passeront entre les mailles du filet de la justice. Au-delà de son aspect judiciaire, le cas de la crise en Islande est aussi le témoignage d'un autre phénomène, celui d'un peuple qui s'est opposé à ses dirigeants, aux banques et aux pressions internationales. Un peuple qui n'a pas oublié qu'être libre, c'est savoir dire non. Après des mois de négociations difficiles, les autorités de Reykjavik trouvent enfin un accord dans le dossier de la dette non remboursée de la banque Icesave, c'est elle qui a sombré au début de la crise, emportant avec elle 5 milliards d'euros. De l'argent qui provenait des épargnants anglais et hollandais, de l'argent que Londres et Amsterdam entendaient bien récupérer. Eh bien, dans ce dossier Icesave, un accord de principe prévoit que l'Islande rembourse sa dette avec des intérêts de 5,5% sur 15 ans. Mais de son côté, le peuple islandais n'est pas d'accord. Très vite, une pétition circule sur les réseaux sociaux. 80 000 personnes sur l'île la signent, soit un quart des habitants qui demandent au président de ne pas signer cet accord. Face à la fronde, le chef de l'État islandais choisit une voie inédite dans le pays pour régler cette question. Le 23 mars 2010, en effet, on organise un référendum, une première en Islande. Et ce jour-là, les résultats sont catégoriques. Le non à l'accord de remboursement de la dette des banques à leurs homologues anglaises et néerlandaises obtient 93% des suffrages, savoir dire non encore et toujours.
C'est un très grand non. Ça dépasse toutes nos espérances. Je crois que les Islandais ont simplement dit qu'ils veulent bien être raisonnables, mais pas se faire avoir. Dites bien que la victoire du non ne signifie pas que nous ne voulons rien payer.
Un an plus tard, après de nouvelles négociations, on organise de nouveau un référendum sur cette question. Le non l'emporte une nouvelle fois à plus de 60%. En 2013, c'est finalement la Cour de l'autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange qui tranche. À la surprise générale, la Cour donne raison aux Islandais et souligne au passage qu'ils ont fait face à une faillite extraordinaire de leur système. Moralité, le pot de terre a cassé le pot de fer. Les Islandais ont tenu bon face à l'ogre britannique. Ils n'ont pas à payer le prix de la folie de leur banque. Aujourd'hui, bientôt 9 ans après les faits, il flotte dans les rues de Reykjavik un parfum de printemps. L'île a retrouvé une partie de ses couleurs d'antan. Certes, tout n'est pas rose. Les Islandais n'ont pas retrouvé leur niveau de vie d'avant la crise. Et certains d'entre eux continuent d'en payer le prix. Mais à force de courage, ils ont obtenu une série de précieux succès. Tout d'abord, grâce à l'accompagnement du FMI et au refus partiel des politiques d'austérité, ils ont réussi à remettre leur pays sur les rails. Ensuite, grâce à leur mobilisation, ils ont su bousculer la crise plus que la crise elle-même ne les a bousculés. Enfin, après avoir chamboulé leur politique nationale et tenté de traquer les coupables, ils en sont même arrivés à réécrire leur constitution. Pour autant, le chemin de l'Islande sur la voie du succès est encore probablement long. Pourtant, entre mythes et réalités, ce pays d'Europe du Nord était le théâtre d'une expérimentation hors du commun qui prouve qu'en temps de crise, une autre méthode est possible. Reste à savoir si elle est applicable ailleurs, chez nous notamment. C'est ce que nous allons tenter de savoir, entre autres, dans quelques minutes, avec notre invité.
Let's
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
L'Islande face à la crise entre mythe et réalité avec notre invité Pascal Richet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialiste des questions économiques à l'Obs. Vous êtes le cofondateur, cofondateur du site d'information en ligne Rue 89. En 2012, vous êtes parti enquêter sur place en Islande pendant plusieurs semaines et vous en avez tiré un livre intitulé « Comment l'Islande a vaincu la crise ». Alors, vous étiez déjà allé dans ce pays en 2005, je crois, en vacances. C'est vrai que c'est un pays de cocagne, hein, l'Islande. Et puis vous êtes revenu en 2012, donc 4 ans après le séisme. Qu'est-ce que vous avez découvert? Quel pays avez-vous découvert 4 ans après tout ça?
Quand je suis arrivé là-bas, j'ai découvert surtout un pays qui avait la gueule de bois, en fait, qui avait été tiré vers le fond et qui prenait ses premières bouffées d'oxygène, puisque la croissance avait commencé à repartir. Mais ils étaient encore totalement traumatisés par ce qui s'était passé. Et puis, ils parlaient de cette période que vous avez très bien décrite dans votre récit, cette période d'argent facile, où finalement... Alors, ils en parlaient avec amertume et colère contre leurs banquiers, etc. Mais avec quand même une petite pointe de nostalgie. Il y avait un côté année folle dans cette période. Hein. C'était la fête.
Oui, ce qu'on racontait d'ailleurs.
Ce que vous avez très bien raconté. Il y avait vraiment une espèce de libération, de fête. Enfin, le pays était dans une frénésie de... C'était quelque chose d'assez extraordinaire. Enfin, d'après les récits qui m'ont été faits, je n'y ai pas participé. Mais les nuits étaient assez chaudes.
Est-ce que vous avez senti le malaise social qu'on peut sentir dans tous les pays qui ont connu la crise, y compris le nôtre, avec une vague encore de protestations, ou de pessimisme, ou est-ce qu'il y avait certaines formes de calme? C'était quoi l'atmosphère?
À cette époque-là, il y avait une forme de calme. Bon, il y avait eu un changement de gouvernement. Hein, parce que pour la première fois de l'histoire du pays, la gauche était arrivée au pouvoir, ce qui est quand même, déjà, c'est quelque chose. C'est un pays qui est très conservateur. Hein, c'est un pays d'agriculteurs et de pêcheurs qui a toujours voté conservateur depuis les années 30. Et donc, pour la première fois, ils avaient osé nommer un gouvernement de gauche, pas pour très longtemps, puisque la droite est revenue assez rapidement, en 2013. Donc, quand j'y étais, il y avait une espèce de résignation, plutôt. Voilà, les gens se disaient, bon, voilà, les réformes sont très dures, ils ont perdu tout leur argent, ils étaient encore très endettés, mais ils voyaient bien que le chômage baissait. Alors, le chômage était monté à 9%, et là, il avait quand même recommencé à baisser. Ils voyaient bien qu'ils avaient trouvé la recette pour sortir de la tête de l'eau.
Alors, lors de votre voyage, vous avez rencontré de nombreux Islandais. Dans votre livre, vous revenez sur le cas d'Ingvi Johnson. C'est un jeune homme de 26 ans dont l'histoire et le parcours interpellent. Vous pouvez nous raconter?
Ouais, je l'ai rencontré par hasard. Je sortais du pôle emploi local et lui, il sortait d'une réunion des alcooliques anonymes. Et donc c'est juste un marin, voilà, c'est un marin, enfin aujourd'hui c'est un marin, mais à l'époque c'était un jeune ouvrier qui avait pleinement profité de cette bulle financière, puisque son salaire avait augmenté, il avait très bien négocié, il avait participé à la construction du barrage, du grand barrage qui était à l'époque bâti. Ensuite il était allé dans un programme de promotion immobilière, là aussi totalement fantasque, puisque dans un endroit où il n'y avait aucune activité. Donc son patron lui-même était très endetté, tout le monde était endetté à l'époque. Et lui-même s'était gorgé d'emprunts. Et puis évidemment, il a été l'une des très très nombreuses victimes. Mais son cas est très symptomatique, parce j'ai pu voir à travers cette vie comment une crise financière pouvait détruire complètement un personnage. Donc lui, il a perdu son boulot, évidemment, il a perdu son appartement qu'on a fini par lui reprendre puisqu'il pouvait plus payer les charges. Il a divorcé, il trouvait pas d'emploi, etc. Donc il a fini par s'enrôler sur un bateau norvégien pour aller dans la mer de Barents pêcher le cabillaud. Et voilà, il revenait de temps en temps passer des vacances en Islande où il est toujours interdit de chéquier.
Alors, est-ce qu'on peut parler, on a intitulé cette émission « Mythe et réalité », parce que la réalité n'est jamais complètement noire ou complètement blanche, hein, toujours entre deux. Est-ce qu'on peut parler de révolution quand même, en ce qui concerne l'Islande et cette réaction du peuple contre ses banques, contre son gouvernement, et puis la réaction du gouvernement islandais contre la communauté internationale, qui disait « faut payer ». Est-ce que c'est un pays qui s'est soulevé? Est-ce qu'on peut dire ça, une sorte de révolution?
Ouais, c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix, en fait. Déjà, l'État ne pouvait rien faire. L'État était submergé par la catastrophe qui arrivait. Vous l'avez dit vous-même, les banques pesaient 10 fois le PNB. Et donc, finalement, ils ont eu cette chance, je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Joseph Stiglitz qui disait, ils ont eu cette chance d'être tellement écrasés par le désespoir qu'ils ne pouvaient pas appliquer, qu'ils ne pouvaient même pas appliquer les règles de l'orthodoxie. Et donc, ils ont dû appliquer, mais par contrainte, des recettes beaucoup plus hétérodoxes, comme le contrôle des changes, la prise de contrôle des banques, etc., etc. Donc, c'est un petit peu sous la contrainte qu'ils ont, ils sont allés vers ces recettes hétérodoxes. Après, sur le plan démocratique, il s'est passé quelque chose. Ils ont quand même renversé un gouvernement sous la pression de la rue, ce qui arrive de temps en temps. C'est arrivé en 34 en France, mais c'est quand même assez rare. Ils ont lancé un processus constitutionnel qui n'a pas abouti, comme vous le savez, mais à mon avis, qui a permis de mener de front à la fois la réflexion sur la réforme économique et les mesures à prendre pour lutter contre la crise, et une réflexion sur ce qu'ils étaient eux-mêmes en tant que société. Et je pense que c'est quelque chose dont les peuples devraient s'inspirer, même les grands, en période de crise, c'est de mener à la fois des réformes et une réflexion démocratique sur qu'est-ce que c'est que notre société, comment est-ce que le peuple est représenté, comment lui donner la voix au chapitre, etc. Et en cela, effectivement, c'est une révolution. Mais je dirais, voilà, oui et non.
Alors, en parlant des banques, parce qu'on va parler des banques, on disait pendant la crise de 2008 que les banques étaient à la fois responsables et victimes de cette crise, je ne sais pas ce que ça vaut, mais enfin, on va quand même parler des banques, hein. Ce sont leurs pratiques, parfois opaques, souvent obscures, qui sont à l'origine de la crise en Islande, comme ailleurs. Je vous propose d'écouter l'analyse de William Muir Birnason. Il est professeur d'économie à l'université de Reykjavik. Il s'exprime au micro de Lionel Thompson et de Éric Gérard pour Interception, le magazine de la rédaction de France Inter. Nous sommes alors en 2010, donc 2 ans après le début de la crise.
Alors, Monsieur Bjarnason, vous êtes l'un des rares, peut-être, en Islande, qui disait avant la crise que quelque chose n'allait pas dans le système financier ici. Pourquoi disiez-vous cela à l'époque ?
Pour plusieurs raisons.
La première, c'est que je n'étais pas d'accord avec la façon dont les entreprises, spécialement les banques et aussi certaines sociétés d'investissement, étaient dirigées. J'avais aussi noté des choses très étranges dans les bilans des banques, en particulier dans les chiffres qui concernaient les crédits. J'avais remarqué qu'un tiers des prêts en Islande étaient destinés à des holdings. Et comme ce genre de compagnie ne génère pas de cash, ça me paraissait impossible qu'elles honorent tous leurs crédits. Et ces prêts représentaient près du double des fonds propres de l'ensemble du système bancaire islandais. Il y avait aussi les crédits à l'étranger, qui représentait environ 45% du total des prêts.
Je pensais
que les banques les considéraient comme de possibles réserves de liquidités étrangères. Mais j'ai remarqué que la plupart de ces prêts à l'étranger étaient aussi à destination de holdings islandaises, domiciliées en Angleterre, au Danemark, au Luxembourg et dans les îles Caraïbes. Donc ce n'étaient pas vraiment des sociétés étrangères, c'était des sociétés islandaises et cela ne pouvait pas être considéré comme des avoirs étrangers. Tout ce que j'avais dénoncé s'est avéré exact.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité hors d'Islande, hein, les banques françaises, européennes, américaines ont exploité le filon de la dérégularisation en Islande jusqu'au bout. Est-ce que nous aussi, on a fabriqué le système qui a fait couler l'Islande des années plus tard, qui a failli la faire vraiment couler? Parce que tout est interconnecté,
oui,
désormais, la finance.
L'Islande, vous savez, c'est un peu comme le canari au fond de la mine, quoi. C'est le plus petit qui subit le premier les fuites de gaz. Et donc, l'Islande a explosé parce que c'est un confetti. Mais comme le disait Eva Jolie tout à l'heure dans votre interview, l'Islande, c'est un petit peu un laboratoire un modèle réduit de ce qui se passait dans le reste de la finance à cette époque-là, effectivement, avec cette dérégulation qui conjuguée à des taux d'intérêt très bas, permettant aux gens de spéculer en empruntant. L'histoire de l'Islande, c'est ça. C'est des banques qui empruntent pour spéculer, investir, faire des investissements hasardeux. Et le jour où la conjoncture se retourne, les taux d'intérêt montent, et ben, tout explose. Et c'est ce qui s'est passé aussi aux États-Unis et dans bien d'autres pays, oui.
Et est-ce qu'on peut dire que ce qui s'est passé en Islande est voisin, cousin d'un phénomène comme les subprimes, par exemple, qui avait explosé en 2007, hein, un an avant la crise, et qui a annoncé la crise?
Oui, tout cela est lié, hein, pour les mêmes raisons. Dans les subprimes, effectivement, là aussi, ce sont des gens qui se sont endettés pour acquérir des logements qui ils ont été incapables de rembourser l'emprunt, et donc tout a été déclenché de cette façon, puisque ces emprunts immobiliers avaient été entre-temps titrisés, c'est-à-dire transformés en actifs négociables, en titres négociables, et donc effectivement ça fait exploser tout le reste des marchés. On est dans la même histoire, hein. L'histoire de l'Islande, c'est l'histoire des subprimes, c'est le même phénomène.
Alors le Fonds monétaire international, donc évidemment, joue un grand rôle, comme à chaque fois, j'ai envie de dire d'ailleurs que c'est son rôle, hein, de soutien, de conseil, d'aide, mais c'est pas une aide gratuite, hein, c'est une aide qui génère des contraintes. Le FMI, la population islandaise, je crois, par réflexe, a refusé au départ. C'était quoi les relations entre les FMI et l'Islande? Est-ce que le FMI a joué un rôle au-delà d'utile, un rôle déterminant? Oui, expliquez-nous cela.
Le FMI a joué un rôle déterminant, et je dirais même que le FMI a dicté le chemin de sortie de la crise de l'Islande. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'au départ, alors eux, ils sont très à cheval sur l'indépendance. Hein. C'est un pays qui a toujours été dominé, soit par le Danemark, soit par la Norvège, soit par les États-Unis, qui avaient mis une base de l'OTAN dans les années 50. Et donc, ils sont très, très attachés à leur indépendance, qui est assez récente, hein, 1944. Et donc, le FMI, le fait que le FMI se mêle de leurs affaires et même gouverne d'une certaine façon la politique économique ne leur plaisait pas forcément, mais ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix parce que il fallait trouver de l'argent, et le FMI est arrivé avec 1,7 milliard de dollars, et donc ils ont pris l'argent et ils ont écouté les recettes du FMI, et finalement le FMI a fait du bon travail, hein. Franchement, l'austérité, elle a eu lieu, mais elle était beaucoup moins brutale que dans d'autres pays, et finalement le FMI a respecté le contrôle d'échange, a respecté les quelques décisions qui avaient été prises juste dans le feu de l'action par le gouvernement. Et il a travaillé avec le gouvernement et son successeur en bonne intelligence.
Mais que pèse l'Islande dans le concert économique, pas mondial, mais au moins européen?
Rien.
On est bien d'accord.
Rien, c'est un confetti. C'est 320 000 habitants, c'est l'équivalent de la ville de Nice ou de la ville de Nantes. C'est rien du tout. Maintenant, en termes symboliques, pas mal. Et d'ailleurs, pendant la sortie de la crise de l'Islande a fait couler énormément d'encre. Il n'y a pas seulement l'encre de mon livre. Moi, j'ai écrit le livre parce que on était assaillis de remarques d'internautes quand j'étais à Rue 89 qui nous disaient vous ne parlez pas de l'Islande, alors ce qui se passe c'est formidable, c'est une révolution démocratique, ils rejettent le capitalisme, ils inventent un nouveau système, etc. Donc j'ai voulu aller voir.
Le Venezuela européen.
Oui, c'est ça. Et en fait, pas du tout. En fait, effectivement, ils ont appliqué quelques recettes hétérodoxes, mais en suivant les conseils du FMI, en étant toujours très attachés à l'économie de marché, et finalement, ils continuent à voter pour ces gouvernements conservateurs qui les ont toujours gouverné.
Bon, alors on en arrive à une question fondamentale qui brûle les lèvres et qui revient en boucle lorsqu'on parle de l'Islande et de sa gestion originale de la crise. Ce modèle-là est-il applicable ailleurs? Voilà, c'est vraiment la question qu'on se pose.
Oui, alors, bon, pour la raison que je vous ai dite, l'Islande est un tout petit pays, et donc effectivement, répliquer un modèle d'un tout petit pays comme celui-là à un grand pays comme la France ou au continent européen me semble un peu hardi. Maintenant, je pense qu'il y a quelques leçons qu'on peut tirer de l'expérience islandaise. La première, on vient d'en parler, c'est que peut-être que les recettes marchent mieux à des petits échelons, et donc il faut peut-être aller vers plus de décentralisation, parce que finalement on règle plus facilement des problèmes à des échelons plus modestes. La deuxième, à mon avis, c'est...
Si on veut notamment que les collectivités locales, par exemple, soient des boosters de l'économie, hein, c'est notamment ce qui est prévu plus ou moins en France.
Exactement.
Faut-il donner des moyens, mais c'est un autre débat celui-là. Donc l'autre enseignement.
Alors l'autre enseignement, c'est associer la population à la réflexion. Et ce qui a été fait en Islande, ils ont associé la population à travers des référendums, à travers la réforme de la constitution, hein, qui est passée par aussi des consultations d'internautes. La population était constamment associée au processus. Et je pense que le fait de politiser, en engageant un processus de réforme constitutionnelle, de politiser cette crise, était une bonne chose. Parce que les gens ont réfléchi sur eux-mêmes, réfléchi sur le sens qu'avait leur propre nation, sur leurs erreurs. Sur les réformes fondamentales dont avait besoin la nation, notamment en termes de transparence. Dans la Constitution, enfin le projet de Constitution, ils allaient très très loin dans la liberté d'information et la transparence, parce qu'il y a beaucoup d'opacité dans cette histoire financière que vous avez racontée. Donc, politiser le processus me semble une bonne leçon. Et puis, la troisième leçon, c'est de savoir sortir des recettes purement orthodoxes, et savoir de temps en temps dire bah, « on va essayer d'autres choses ». On va essayer une recette, effectivement, qui n'est pas recommandée par les experts du FMI ou autres.
Ou les orthodoxes de la maîtrise des déficits budgétaires, par
voilà,
exemple.
Voilà, exactement. Donc voilà, et on essaye de faire quelque chose un peu différent, et parfois ça marche, effectivement ça a marché.
Alors il y a un autre enseignement, en tout cas pour l'Islande, et c'est le titre d'un des chapitres de votre livre. Vous dites « Les femmes prennent la main ». Et puis il y a une phrase drôle, d'ailleurs, vous dites « La testostérone est alors une valeur en baisse ».
Oui, c'est vrai que après la crise, d'abord c'est une femme qui a accédé au poste de Premier ministre, et puis les banques ont été confiées à des femmes, et effectivement, tout d'un coup, ce peuple a décidé de faire plus confiance aux femmes. Et de leur passer la main. Et il y a plusieurs femmes qui ont joué un grand rôle dans le rétablissement de la situation en Islande.
Alors on voit que l'Islande n'échappe pas, on va dire, à ce qui est aujourd'hui la condition humaine dès qu'elle est liée à l'argent. Son premier ministre en fonction en 2016, Sigmundur Davidgunnlaugsson, qui a fait la une de l'actualité en pleine affaire des Panama Papers, il a été contraint de démissionner. Il aurait possédé avec sa femme une société installée dans les îles Vierges britanniques, c'est cela ?
Oui, il était dans les Panama Papers, ouais. Il me semble. Oui, tout à fait. Bah, les affaires. Le problème, c'est qu'il y a toujours. Il s'est passé des choses dans cette période, hein, 2000. Toutes les années 2000, il y a encore pas mal de cadavres dans les placards. Il y a encore des scandales, d'ailleurs. Actuellement, ils sont en train de privatiser leur banque. Il y a des hedge funds qui ont acheté, par exemple, la banque Kaupthing, qui s'appelle maintenant Arion. Et en Islande, on s'interroge sur qui sont les gens qui sont derrière ces hedge funds, et tout ça est un peu opaque, et certains subodorent qu'il y aurait des anciens acteurs de la crise qui seraient de retour.
Tiens donc.
Voilà. Donc vous voyez, c'est pas encore la crise n'est pas encore terminée, et le soupçon n'a pas encore disparu. Il faut dire que c'est une petite société un petit peu clanique, hein, avec des grandes familles, etc., des gens qui se connaissent, des cousins, etc., et donc il est très très difficile d'aboutir à un système totalement transparent, totalement démocratique, etc., comme on pourrait en rêver dans ce pays.
Je remarque quand même, il nous reste juste 25 secondes, mais je remarque souvent que les sous-titres des titres, des livres sont importants. Votre sous-titre, c'est « Reportage dans le labo de l'Europe ». Vous considérez l'Islande comme le labo de l'Europe ?
Oui, parce que c'est une petite économie de marché avec un gouvernement, et donc on peut observer ce qui se passe à échelle réduite en matière à la fois démocratique et économique. Alors évidemment, c'est pas transposable, mais je pense que ça peut apporter pas mal de leçons.
Infiniment, merci infiniment Pascal Richer. Je rappelle le titre de votre livre « Comment l'Islande a vaincu la crise ?» Reportage dans le labo de l'Europe. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la crise économique en Islande, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le cas Fourniret, tueur en série, surnommé le monstre des Ardennes.